Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'émissions basée sur le thème « Dieu est amour ».
Lors de cette émission, nous aborderons la question « Comment Dieu nous prouvera-t-il son amour dans l'avenir ?» Écoutons d'abord un texte biblique extrait de la première lettre écrite par l'apôtre Jean au chapitre 3, versets 1 et 2. Ensuite, notre invité Flavien nous accompagnera dans nos réflexions.
Voyez combien le Père nous a aimés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est.
Flavien, nous avons lu ces versets la dernière fois. Et nous avons appris que Dieu nous aime au quotidien comme un père aime ses enfants. Aujourd'hui, nous nous intéressons davantage à l'avenir. Quel est l'intérêt de ces versets à ce sujet?
Bonjour Yann et bonjour à tous. Pour répondre à votre question, ces versets nous donnent une idée sur ce que Dieu va accomplir dans nos vies. Nous pouvons affirmer que Dieu a commencé une œuvre d'amour dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il nous a sauvés. Il nous a pardonné de nos fautes, il nous a réconciliés avec lui. Et Dieu poursuit en nous cette œuvre d'amour. Il est, comme vous venez de le rappeler, notre Père céleste. Toutefois, nous pouvons nous poser la question que voici. Quel va être l'aboutissement de cette œuvre d'amour? Un élément de réponse à cette question se trouve dans le dernier verset que nous avons lu.
Et je le répète pour le rappeler. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est.
Comme vous le constatez, ce verset nous renvoie vers un événement futur, le retour de Jésus-Christ. Et il nous donne deux promesses qui devraient nous réjouir le cœur. Nous verrons le Christ tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Voilà l'aboutissement de ce que Dieu, par amour, accomplira dans nos vies.
Dites-nous, Flavien, en quoi serons-nous semblables à Jésus-Christ?
Eh bien, tout comme Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et est revêtu d'un corps éternel, le croyant aussi ressuscitera et recevra alors un nouveau corps pour vivre éternellement avec Dieu.
Et la Bible nous décrit-elle ce nouveau corps?
Alors, elle n'en dit pas beaucoup, c'est vrai. Citons toutefois ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe. Lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité.
Expliquez-nous le sens des mots incorruptible et immortel.
Eh bien, ce qui est immortel ne mourra jamais. Dans ce monde, chacun de nous sait qu'un jour il mourra. Or, une fois ressuscité, ce destin ne pèsera plus jamais sur nous. Car il nous sera donné des corps qui ne seront plus jamais sujets au vieillissement. Et il ne se trouvera plus rien non plus qui pourra porter atteinte à notre santé. Cependant, l'idée d'incorruptibilité apportée dans ce verset est encore plus précieuse et formidable. La corruption signifie, selon la définition du dictionnaire, l'action de changer l'état naturel d'une chose en la rendant mauvaise. Une personne, donc, devenue incorruptible, ne peut plus devenir méchante. Or, nous savons que nos vies dans ce monde sont rendues malheureuses sous l'effet du mal, du péché, qui nous corrompt. Même quand nous faisons des efforts pour être de bonnes personnes, justes et pures, nous savons que nous ne parviendrons jamais à la perfection. Nous sommes si facilement corrompu par les diverses influences et tentations qui nous assaillent. Or, dans la vie éternelle, il n'en sera plus ainsi. Nous serons comme Jésus-Christ, c'est-à-dire sans péché. Nous serons comme Jésus-Christ, car nous parviendrons à vivre l'amour et la sainteté, la justice et la pureté. De plus, nous serons incorruptibles. C'est-à-dire que rien ne pourra plus jamais nous rendre méchants.
Voici donc le projet d'amour que Dieu a conçu pour chaque croyant. Oui, il nous réserve un avenir formidable, car un jour nous verrons Christ et nous jouirons de sa présence merveilleuse, pas seulement quelques instants, mais l'éternité entière. Toutefois, la réalisation de cette promesse sûre et certaine peut nous sembler quelquefois si lointaine, car nous devons lutter jour après jour, tirailler entre les épreuves qui peuvent nous accabler et notre manque de foi trop souvent présent.
Cette réflexion est très juste et elle nous conduit à la deuxième leçon que je voulais évoquer aujourd'hui. L'amour de notre Père Céleste envers nous nous demeurera fidèle et constant aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre. Malheureusement, nos proches et nos amis ne demeurent pas toujours fidèles. De même, leur amour est souvent loin d'être constant, et nous ne pouvons pas forcément toujours compter sur eux.
Il est malheureusement vrai que nous pouvons facilement être déçus par les autres.
Or, la Bible le déclare, Dieu n'est pas ainsi. Je le répète, son amour est fidèle et constant. Pas un seul instant il ne nous oubliera, jamais il ne nous rejettera, ni ne nous abandonnera. Nous pouvons compter sur lui, sur son amour. Nous pouvons aussi nous appuyer sur lui, sachant qu'il demeurera toujours le même, que jamais il ne changera. Ceci dit, je voudrais maintenant revenir sur vos remarques. Vous avez parlé des craintes que certains éprouvent, pensant qu'ils ne parviendront jamais jusque dans la vie éternelle. Alors, je voudrais à mon tour vous poser une question.
Allez-y, Flavien.
Eh bien, cette œuvre d'amour conçue pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ, appartient-elle à Dieu ou bien nous appartient-elle?
Elle appartient à Dieu qui a promis de l'accomplir en nous.
Vous avez tout à fait raison, Yann. Si ce projet dépendait de nous, si nous devions parvenir à la ressemblance du Christ et jouir de la vie éternelle par nos propres efforts, alors là, il y aurait matière à se désespérer. C'est pourquoi Dieu lui-même a promis de réaliser cette œuvre en nous. Dieu lui-même a promis de nous conduire et de nous guider jusque dans la vie éternelle. Or, parce que Dieu est un Dieu d'amour, nous pouvons compter sur lui afin de terminer le travail qu'il a commencé en nous. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, jamais il ne nous abandonnera sur le chemin qui conduit jusqu'à lui.
Mais qu'adviendrait-il si, de notre côté, nous commettions des péchés graves ou bien si nous nous éloignions du Seigneur?
Ce sont là des questions importantes qui méritent plus de temps de réponse que nous ne pouvons leur accorder. Toutefois, parce que Dieu a promis à ses enfants de les conduire jusque dans la vie éternelle, nous pouvons affirmer qu'il tiendra sa parole, quoi que nous fassions de notre côté. Parce que Dieu est amour, il nous pardonnera nos fautes. Parce que Dieu est amour, il ira chercher ceux qui s'éloignent de lui pour les ramener sur le bon chemin. Mais bien sûr, nous ne devons pas abuser de la grâce de Dieu et penser que parce qu'il nous pardonne, nous pouvons faire n'importe quoi dans la vie. Une telle attitude prouverait que nous n'avons pas compris l'Évangile et que nous n'appartenons pas à Dieu et que nous sommes donc sous le coup de sa condamnation. Ceci dit, pour conclure, pouvez-vous, Yann, lire Philippiens chapitre 1, verset 6, s'il vous plaît?
Oui, le voilà. J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vue son œuvre bonne la poursuivre jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ.
Cette conviction de l'apôtre Paul résume fort bien ce que nous cherchons à démontrer. Dieu, dans son amour, a conçu un plan de salut pour les hommes et les femmes. Ce salut est une œuvre en cours de réalisation dans nos vies. Mais nous pouvons avoir la certitude que, puisque Dieu est amour, il achèvera cette œuvre commencée en nous.
Merci Flavien. Passons à présent à notre méditation biblique.
Actuellement, nous nous penchons sur l'évangile de Jean, et notamment sur les occasions où Jésus déclare « Je suis ».
Dans un premier temps, Hélène va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, les versets 7 à 9. Puis nous laisserons la parole à Jo, qui nous fera part de ses réflexions sur ce texte.
Alors Jésus reprit « Vraiment, je vous l'assure. » Je suis la porte, par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir.
En Israël, à l'époque de Jésus, l'élevage de brebis était fort commun. Aussi Jésus évoque-t-il dans cette courte parabole le fait que le berger, à la fin de ses journées, devait souvent reconduire le troupeau dans un lieu clos où les brebis passaient les nuits à l'abri et en sécurité. Bien sûr, pour accéder à ces enclos, il fallait passer par une porte, et généralement, il n'y en avait qu'une. Jésus compare donc l'enclos des brebis au salut qu'il est venu offrir aux hommes et aux femmes. Ainsi, Jésus affirme que pour s'emparer du salut qu'il donne, il faut passer par lui. Il n'existe pas d'autre porte, aucun autre moyen d'accéder à Dieu. Jésus est véritablement le seul sauveur. Selon la parabole, toute brebis demeurant à l'extérieur de l'enclos reste exposée à de multiples dangers, tels que le froid et la faim, des bêtes sauvages à l'affût d'un bon repas, des brigands et des voleurs. Par contre, à l'abri de l'enclos, les brebis sont saines et sauves. Elles se trouvent en sécurité, car le berger veille sur elles afin de répondre à leurs besoins. Nous devons donc en conclure que si nous refusons le salut que Jésus offre, nous demeurerons exposés aux dangers spirituels et nous nous priverons de la sécurité et des bienfaits offerts par le Seigneur. Mais de quel danger spirituel Jésus veut-il nous sauver? La Bible évoque surtout le péché, le mal que nous commettons tous, ce mal qui engendre tant de malheurs, ce mal qui nous sépare de Dieu et nous expose à son jugement, ce mal qui nous destine à la mort, ce mal qui nous lie aux esprits mauvais. Constatez-vous à quel point ce mal nuit à votre vie? Alors, tournez-vous vers Jésus, car il est la porte par laquelle vous pouvez entrer pour recevoir le salut. Mais quelle est cette sécurité qu'il nous offre? La sécurité de savoir que nos péchés sont pardonnés. La sécurité de savoir que Dieu est pour nous un Père et qu'il ne nous abandonnera jamais. La sécurité de savoir que la résurrection et la vie éternelle nous sont promises.
À travers cette émission, nous avons compris que le chrétien vit avec une espérance merveilleuse.
Nous comprenons aussi que cette espérance est certaine, car elle ne dépend pas des efforts que nous pouvons fournir pour l'obtenir, mais de la toute-puissance de Dieu et de son amour insondable. Car l'Éternel a promis de nous garder et de nous conduire jusque dans l'éternité.
Sur ce, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.